pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Qui s'occupe de l'environnement ? Est-ce qu'il est logique, raisonnable, viable, durable, hein, au sens social comme au sens environnemental, qu'on ait moins de 2% de la population active, qui a pour mission et de produire de la nourriture et de dégager de la plus-value économique qui s'inscrit dans une lutte géopolitique internationale via l'exportation et d'entretenir le paysage, de l'entretenir pour continuer à exister, mais aussi pour le restaurer, pour regagner de la biodiversité, pour pouvoir faire face au réchauffement climatique, pour pouvoir faire face aux sécheresses à répétition, tout ça par une si petite partie de la population. Ça pose la question en fait de nos modes de vie, de la manière dont on s'oriente vers les métiers qu'on pratique, de notre rapport à l'espace, de notre rapport à l'alimentation aussi. Ces grands problèmes qui sont des problèmes politiques en fait, c'est rien d'autre que le résultat d'une histoire qui aurait pu être autrement, qui peut être aussi changée par des choix politiques.
Dans la France de 2024, 2 à 3% de la population active travaille et gère plus de 50% du territoire métropolitain. C'est un fait énoncé par Léo Magnien, sociologue au CNRS, auteur de ce livre « La vie sociale des haies ». Et aujourd'hui, Léo Magnien va nous parler histoire de France, géographie, agriculture, sociologie et nous amener à porter un regard plus précis notamment sur le monde rural contemporain, sur ces 2 à 3% d'actifs qui travaillent sur plus de la moitié du territoire français et que le grand public connaît mal. Paradoxalement, notre porte d'entrée est une clôture. Clôture végétale emblématique, la haie. La haie qui jalonne ou jalonnait un paysage de bocage. Le bocage, pratique agricole en disparition, pas seulement à cause des remembrements, comme on va le voir. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue dans la vie sociale des haies avec Léo Magnien. Bonjour Léo.
Bonjour.
La vie sociale des haies. Il y a un petit brin de malice dans ce titre. En même temps, tu es sociologue au CNRS.
C'est ça, exactement, oui.
Les haies, en fait, ne sont qu'une porte d'entrée vers plein de thématiques que tu abordes dans ce bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire déjà la genèse ? Quelle drôle d'idée d'écrire sur les haies.
Alors, en fait, je commence à travailler sur l'agriculture il y a une dizaine d'années. Et au départ, c'est vraiment sur la santé des agriculteurs d'un point de vue sociologique. Donc, comment se fait-il qu'il y a une prévalence de suicides parmi les agriculteurs, 3 fois plus chez les éleveurs une cinquantaine d'années que chez d'autres professions. Et je travaille à ce moment-là pour Médecins du Monde. Donc je suis assez loin des haies. Pourtant, dans les entretiens, revient souvent l'idée qu'il y a une sorte de boîte noire lointaine, malveillante, qui serait la PAC, la politique agricole commune, ou plus largement l'administration, Bruxelles, ils, eux, voilà, un pluriel, qui serait très éloigné et malfaisant.
Il est invoqué par ces exploitants agricoles que tu rencontres. Je relève quand même, Médecins du Monde, tu dis ça va dans les pays du Sud, enfin là où il y a des guerres, des trucs comme ça. La situation du monde agricole français est tellement dramatique que Médecins du Monde envoie des gens.
Ouais, Médecins du Monde avait créé une antenne en fait dans les Combrailles, donc c'est nord du Puy-de-Dôme, sud de l'Allier, pour justement essayer de se saisir de ce sujet-là, de la santé mentale des agriculteurs et puis des difficultés d'accès aux soins dans le monde rural en général, hein, parce qu'il y a aussi évidemment des personnes qui sont en très grande précarité en milieu rural et des classes populaires qui ont du mal à accéder aux soins. Et donc moi j'arrive, et dans mes entretiens, il y a cette distance-là, cette méfiance, cette critique par rapport à l'État. Et puis la question c'était ensuite de se dire comment je peux essayer d'attraper ça par un objet, par un fil rouge, et pour pas en rester à des discours qui s'inscrivent dans des pratiques qui sont justifiées, qui sont vécues, mais qui finalement sont un petit peu autoréférentielles. Enfin, donc là l'objectif c'est de prendre les haies parce que ça revenait souvent dans les discours comme un exemple de contrainte imbécile, entre guillemets, c'est ce qui revenait dans les entretiens, de cette absurdité de l'administration, en disant voilà, maintenant les haies sont protégées, on peut plus faire ce qu'on veut faire, parce qu'en 2015 la politique agricole commune a protégé les haies. En plus, il a fallu les numériser, c'est-à-dire les cartographier dans un logiciel. Et ça, les agriculteurs que je rencontrais, donc qui étaient principalement des éleveurs de bovins, me disaient que ça avait été extrêmement mal fait, que ça posait des problèmes, parce qu'il y avait des haies qui avaient été cartographiées à des endroits où il n'y en a jamais eu, que donc, s'il y avait un contrôle, on allait leur dire « Bah, vous avez supprimé une haie !» alors qu'eux n'avaient jamais vu de haie à cet endroit-là. Donc c'était une sorte de traceur de cette critique de l'administration et de comprendre aussi ce mouvement de verdissement entre guillemets des politiques agricoles que moi j'appelle écologisation, donc de prise en compte de critères environnementaux dans des politiques qui sont traditionnellement depuis les années 50 portées vers l'intensification de la production au contraire.
On apprend plein de choses, et notamment en matière d'histoire, à travers ce prisme des haies, d'histoire du pays, d'histoire de notre agriculture. Je t'écoutais parler hier, je me suis rendu compte ce matin en y repensant que ça me renvoyait un miroir de mes constructions mentales, de mon imaginaire d'urbain vis-à-vis de la campagne, présupposée conception d'une pseudo-écologie. Bon voilà, au-delà des mondes que tu décris, je me rends compte que ton bouquin me parlait aussi de moi-même et de ma vision du monde. Plus tout à fait à jour. Et je vais finalement commencer par moi, ce qui m'a vraiment impressionné. Le gros morceau, le truc qu'on apprend à l'école, qu'on nous répète dans les médias, etc. Si les haies disparaissent, une vitesse de croisière de disparition des haies de plus de 10 000 km linéaires par an, là on a atteint les 20 000, c'est tout à fait monstrueux. Et tout de suite, quand on pense haies, on pense remembrement, parce que on a industrialisé l'agriculture, on abandonnait les animaux de labour progressivement, et donc c'était les grosses machines.
Le plan Marshall,
les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Voilà, on nous a beaucoup raconté que c'était pour faire passer ces gros engins et faire de l'agriculture productiviste, intensive, avec aussi son bataillon d'intrants, de produits chimiques, de pesticides plus ou moins mortifères, etc., etc. À notre grande surprise, tu nous as expliqué hier que ces haies qu'on a commencé à faire disparaître, alors en plus pas sur tout le territoire français, tu parlais d'une ligne La Rochelle-Genève, et que en dessous cette ligne, finalement, le remembrement avait peu frappé. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce gros mythe, et tu disais non, ces haies, en fait, qu'on commençait à disparaître avec l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture française, ces haies, après-guerre, elles étaient déjà des fossiles, elles étaient déjà en voie de disparition. Le monde paysan français les regardait même comme un objet du passé. Pareil avec ma vision d'urbain pseudo-écolo, moi je me dis les haies c'est de la biodiversité, c'est pour maintenir le sol, c'est pour éviter que le sol s'assèche, qu'il garde son humidité, parce que le meilleur endroit où on peut stocker de l'eau, bah, c'est dans le sol et dans les végétaux. Et tu rappelles un truc très bête, c'est que les haies c'est avant tout des barrières et que ça sert à signaler de la propriété privée. Les haies, bah, c'est ce qu'il y avait avant les barbelés en fait.
Ouais, exactement. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on comprend l'agacement des éleveurs que je rencontre, qui, lors des entretiens, m'expliquent que c'est insupportable d'avoir une sorte d'intrusion de l'État qui envahit un espace qui est le symbole de la propriété privée, la haie. Dans ce que tu as dit sur l'importance du remembrement, sur le fait que le capitalisme qui se développe amène l'industrialisation de l'agriculture, sur le fait que les haies, c'est bon pour la biodiversité, tout ça, c'est vrai. Hein. Simplement, là, ce que j'essaye de proposer dans le livre, c'est d'essayer de complexifier un peu cette vision sans du tout la disqualifier ou la discréditer. Elle est factuellement vraie. Par contre, on peut la nuancer ou l'enrichir plutôt. Penser que ce qui se passait avant le remembrement n'était pas une sorte d'âge d'or paysan dans lequel la haie était soignée, choyée par des travailleurs ruraux et pris de bienveillance à l'égard des arbres parce qu'ils auraient été dans une sorte de proximité avec la nature qu'ils auraient perdu à la faveur de l'industrialisation. En fait, c'est plus compliqué que ça dans le sens où si on lit les historiennes, les ethnologues qui ont travaillé sur ces sujets, elles montrent que les haies étaient des monocultures intensives, qu'elles étaient exploitées, ces haies, exploitées à de multiples fins. Ça pouvait être d'abord pour contenir le bétail ou protéger les cultures, donc d'abord une clôture. Et il y a toute une longue histoire de ça, hein. Marx en parle déjà à la fin du livre 1 du Capital, où il explique que les enclosures, un long mouvement qui démarre à la fin du 15e siècle, qui s'arrête au 18e...
Au Royaume-Uni.
Exactement, au Royaume-Uni, consiste en l'accaparement de terres par des lords, contre la volonté de l'Église et du roi, accaparement de terres communes qu'ils clôturent pour y faire paître des moutons dont ils exploitent la laine, parce qu'à l'époque se développent les premières fabriques textiles dans les Flandres. Et donc la haie est finalement l'outil d'incorporation du sol au capital, comme dit Marx. Et on est loin de cette idée justement d'une haie comme bien commun, bien public ou simple corridor écologique.
Alors, quand tu dis accaparement, un synonyme c'est vol.
Voilà, ouais, et ça a été vraiment comme ça que l'ont lu d'autres historiens à la suite de Marx, des historiens marxistes comme Eric Hobsbawm, comme Thompson, qui a fait l'histoire de la classe ouvrière, l'économiste Karl Polanyi aussi, hein, qui parle d'un vol de classe. Et c'est le principe du capitalisme selon Marx, hein, c'est l'accumulation primitive qui n'est rien d'autre que la constitution d'un capital par le vol, par en fait l'appropriation indue et illégale, qui est ensuite légalisée a posteriori, ce qui aussi renseigne sur comment fonctionne le droit. Le droit n'est pas juste des règles qui descendent comme ça pour le bien commun, mais c'est aussi qui décide le droit, en faveur de quoi et par rapport à quel rapport de force à un moment donné. Et si on revient à Noé par rapport au remembrement, on voit bien que avant le remembrement, ce n'était pas une sorte de nature préservée. Elle s'inscrivait dans une économie paysanne, une économie qui était différente hein, de l'économie actuelle, ça va sans dire, mais qui était totalement travaillée, exploitée, dans le sens où on avait besoin du bois, évidemment, pour se chauffer. D'ailleurs, c'est toujours le cas, et les ménages agricoles se chauffent substantiellement plus au bois que le reste de la population. Mais on en avait également besoin pour faire des fagots, non pas pour se chauffer, mais pour faire cuire le pain, pour faire cuire la poterie, puisque avant le développement des magasins qu'on connaît et des épiceries, les biens manufacturés, le pain, etc., étaient faits dans des fours locaux. Il fallait également faire cuire la nourriture des animaux. Et puis, c'était l'occasion de se servir un petit peu comme dans un magasin de bricolage, où on va essayer d'aller chercher sur un arbre la branche qui va aller comme il faut pour faire le chevron dont on a besoin, la poutre qu'il nous faut, pour faire le manche de la hache qui vient de casser, pour faire un panier d'osier parce qu'il faut transporter ce qu'on ramasse dans la haie, par exemple des fruits, parce que les sources de sucre à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, on a du sucre raffiné, de l'huile avec des noisettes, des noix. Donc on a vraiment une sorte de travail permanent de la haie qui, au fur et à mesure du 19e siècle et a fortiori du 20e siècle, tombe en désuétude progressivement à mesure qu'on entre dans une société avec justement des épiceries, aujourd'hui des magasins de bricolage, des chaînes de commercialisation qui s'allongent et une division du travail qui s'instaure et qui se répercute dans l'organisation même des fermes, hein, puisqu'avant l'agriculture au sens de paysanne produisait d'une manière quasi autarcique, c'est Henri Mindras, sociologue, qui en parle comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la division sociale du travail qui va avec l'industrialisation, elle se spécialise en élevage, par exemple, en culture, par exemple, en maraîchage, en viticulture, etc. Et donc, c'est cette spécialisation qui fait que progressivement, les haies tombent en désaffection et que leurs fonctions sont retirées, y compris leur première fonction dont on est parti là tous les deux, à savoir le fait de clôturer. Puisque se développe le barbelé au début du XXe, se développe ensuite le fil électrique dans la seconde moitié du XXe, et on a aujourd'hui des haies qui sont au départ des clôtures, mais qui bizarrement ne clôturent plus rien. Donc ça pose la question de leurs nouvelles fonctions, de la manière dont elles peuvent être prises en compte, remises au goût du jour, retrouver une place dans l'économie agricole telle qu'elle existe aujourd'hui.
Puis tu expliquais aussi que des kilomètres et kilomètres linéaires de ces haies ont disparu tout simplement parce qu'elles n'étaient pas entretenues. C'est du vivant, et si on laboure un peu trop près, ben on casse la vie ou les choses qui peuvent éclore, et puis qu'au bout d'un moment, la haie disparaît par manque de soins.
Oui, tu as parlé de fossiles tout à l'heure. Un texte qui a bientôt 100 ans, qui date des années 30 du siècle dernier, de Julien Gracq, ça c'est son pseudo littéraire, mais en fait était géographe, et a travaillé sur l'Anjou, et qui montre que le bocage est une forme de vie économique fossile qui mourra d'une transformation sociale. Et donc il parle voilà, de fossiles, au sens où justement elles perdent déjà leur fonction économique, elles sont de moins en moins considérées comme des ressources, ces haies. Et ça, c'était il y a bientôt 100 ans. Et on sait que, comme tu l'as dit avec le remembrement, ça a été des opérations de modernisation qui ont considérablement accéléré ce mouvement-là. Sinon pas déclenché, si c'est pas venu de rien, ça l'a accéléré considérablement. Et finalement, cette fossilisation, elle s'observe aussi comme une cause de disparition des haies. Tu as parlé d'un labour proche des racines, par exemple, qui peut affecter les arbres.
On voit en fait sur la couverture de ton livre, hein, La vie sociale des haies, on dit « Oh, la jolie haie !» Et tu nous as dit « Non, mais regardez, en fait, ça ne va pas !»
Oui, c'est une photo qui a été prise par une spécialiste du bocage qui travaille dans une association avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour ma thèse, la Fac Agroforesterie, l'association française des arbres champêtres, et qui l'a prise en photo parce que justement ça témoignait de pratiques où l'idée c'est pas du tout de dire ah dis donc l'agriculteur fait pas ce qu'il faut, etc. C'est pas ça, c'est pas une moralisation de la technique, c'est simplement comprendre l'évolution des techniques pour comprendre l'évolution du paysage. Et là en l'occurrence sur cette image, il y a des beaux chênes qui ont des troncs massifs, mais qu'entre les chênes il n'y a pas de strate arbustive, il n'y a pas de prunelier, il n'y a pas d'aubépine, il n'y a pas d'arbuste. Parce que l'épareuse, donc un broyeur, est passé régulièrement, ce qui fait que la haie ne peut pas se régénérer, il n'y a pas d'autres arbres qui peuvent pousser. Et au bout d'un moment, l'arbre étant un être vivant, il meurt. Et quand ces arbres-là, ces gros chênes mourront, tout porte à croire que la haie pourra disparaître aisément, peut-être que les deux parcelles contiguës seront réunies en une seule, et que cette absence de régénération de la haie du fait des pratiques qui sont elles-mêmes causées par tout l'état économique, social, démographique et technique de l'agriculture actuelle, fait qu'on a une disparition des haies qui n'est plus ce qu'on a observé avec la modernisation agricole, à savoir des grandes pelleteuses, des dynamites, pour standardiser brutalement et d'un coup des espaces entiers. Ça existe encore, il y a encore des remembrements aujourd'hui, mais ils sont très peu nombreux. Et ça peut passer aussi par une régression comme ça, quasiment invisible parce qu'elle est très lente, et difficilement repérable parce que là aussi il faut suivre le temps de l'arbre et que ça échappe au regard direct.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Qu'il est beau dans notre imaginaire ce bel arbre mythique à la Brassens. Mais de l'image d'Épinal à la réalité, il y a tout un monde qu'on évoque avec Léo Magnien. Vision bucolique, couvercle de boîte à camembert, enfin on se dit la haie. C'est un paysage, enfin en tout cas une technique agricole relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Tu disais qu'elle a commencé à tomber en désuétude au 19e, mais c'est aussi son point où elle culmine, non ?
Oui, c'est ça, c'est l'apogée. En France, c'est l'apogée du bocage, c'est fin 19e. On considère aussi, pour les historiennes qui ont travaillé sur le sujet, que le bocage français est majoritairement récent, qui vient justement de cette période du 19e siècle, au cours du siècle. Donc finalement, on n'a pas affaire à quelque chose qui serait éternel ou fondamentalement lié à l'exploitation de la terre. Il y a plein de manières de faire, et celle-là est celle qui a marqué le paysage français, mais il aurait pu en être autrement finalement. Et si on reprend peut-être l'aspect remembrement, et parce qu'on l'a pas défini, donc pour le dire simplement, un remembrement c'est un aménagement foncier, donc une opération foncière consiste à regrouper les parcelles autour du siège d'exploitation pour qu'elles soient plus facilement accessibles et à les rendre plus facilement mécanisables. On parlait de la généralisation des tracteurs dans les années 50-60 en France, qui démarre vraiment. Cette période de remembrement, elle s'étend principalement, en termes d'hectares remembrés, entre les années 60 et 70. Et ça a beaucoup marqué, parce que y a des communes entières qui ont été remembrées, parfois jusqu'à trois fois, en quelques décennies, et que ça se voyait directement dans ce qu'on appelle les travaux connexes des remembrements, à savoir le drainage de zones humides, de marais, entre guillemets, de l'arasement de haies, la suppression de vieux chemins creux. Et donc ça se voit directement, et ça concerne pas uniquement le monde agricole, parce que la surface agricole en France c'est plus de la moitié du territoire national, c'est 52% du territoire, et ça va de pair avec un exode rural qui correspond à ces décennies-là, qui est particulièrement massif, qui fait aussi que dans les trajectoires sociales, dans les arbres généalogiques d'une bonne partie des Français issus du monde rural, le remembrement en fait vient matérialiser, symboliser dans l'espace la fin du paysage en même temps que la fin des paysans.
Ces fameuses vagues de remembrement, donc après-guerre, bon, tu précises, années 60-70, elles n'ont pas lieu sur tout le territoire français. Revenons à cette ligne La Rochelle-Genève. Là.
Ouais, en fait, c'est aussi pour relativiser le poids du remembrement. Il y a déjà des géographes, lors du premier colloque sur les haies interdisciplinaires, donc il y avait le CNRS, il y avait l'INRA, des gens de l'université, des géographes, des spécialistes des insectes, des spécialistes de l'eau, des spécialistes des sols, des spécialistes de la cartographie numérique, déjà en 76, qui se réunissent à Rennes Il y en a un parmi ces géographes qui dit il faut vraiment relativiser le poids du remembrement. Le remembrement a en effet des effets dommageables, et d'ailleurs c'est pour ça que ce colloque a eu lieu, hein, les premières sciences DS, si on peut dire, se déploient parce qu'il faut mesurer les effets non maîtrisés, les effets pervers sur l'environnement des remembrements table rase. C'est des remembrements qui ont été appelés comme ça, et notamment en Bretagne, parce qu'ils étaient particulièrement virulents dans leur capacité à standardiser le paysage et le sol, outil productif. Et à ce moment-là, en fait, le géographe déjà précise que tout n'est pas la faute du remembrement, que dans le remembrement, il peut y avoir des haies qui sont préservées par le géomètre en disant « celle-là, on n'y touche pas » parce que, par exemple, elle est en rupture de pente, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à la pente, donc elle va lutter très efficacement contre l'érosion, hein, par la terre qui est emportée par l'eau, de la pluie ou par le vent. Donc ça, c'est très bien, on la garde. Que parfois, ces haies-là sont quand même détruites. Une fois que les machines sont là, hop, les agriculteurs s'arrangent entre eux pour la détruire. Ou alors, ça passe à l'amiable, en dehors de l'opération foncière du remembrement, qui est conduite sous l'égide d'une autorité administrative, au départ l'État, ensuite le département. Et ça, ça a été confirmé par un géographe qui s'appelle Thibaut Preux, dans des travaux tout à fait récents, dans la Manche, et qui montre que, en l'absence de remembrement, les haies continuent de disparaître, et d'autant plus vite que la Manche est le département le plus bocagé de France, le moins forestier le plus bocagé. Et si ces haies continuent de disparaître en l'absence de remembrement, c'est parce que on a affaire à d'autres dynamiques qu'il faut comprendre, parce que si on se focalise sur le remembrement en se disant « Ah bah tiens, c'est la faute du remembrement, si on arrête le remembrement, alors on arrête la disparition de haies », là on voit que non, et qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est principalement des pratiques qui perdent du sens parce qu'on a moins d'élevage. En fait, l'élevage de bovins pâturants, ça peut être aussi des ovins ou des caprins, mais c'est principalement des bovins, en fait, quand ils régressent, il y a tout un ensemble de pratiques agronomiques, de pratiques agricoles qui se sont transformées. Particulièrement, les prairies et les haies sont touchées dans ces changements, parce que si tu as des vaches, qu'en fait tu n'arrives pas à vivre parce que le revenu est trop bas, parce que le temps de travail est trop élevé, parce que l'exploitation est trop grande, personne ne voudra la reprendre si tu veux partir à la retraite, et qu'en fait ta retraite en tant qu'agriculteur, c'est ce que tu vas pouvoir tirer de la vente de ton capital que tu as accumulé toute ta vie, tu pourras pas compter sur les 700 ou 800 euros de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, ça va pas suffire. Donc il y a cette idée-là de pouvoir transmettre et donc pouvoir avoir une ferme qui puisse être reprise. Et à ce moment-là, tu passes plutôt vers des cultures. C'est un mouvement qu'on observe partout en France où, en fait, le retrait de l'élevage laisse place à des parcelles un peu plus grandes parce que tu veux gagner du temps, faire passer des machines qui peuvent être un peu plus grandes et surtout cultiver, donc labourer, semer, récolter, là où peut-être tu avais des prairies dites naturelles ou des prairies permanentes, c'est-à-dire des prairies où pousse de l'herbe que tu récoltes, que tu fais pâturer, que tu fanes, mais qui n'est pas le produit d'un travail du sol, d'utilisation d'intrants, ou alors tout à fait à la marge. Alors que quand on passe sur des cultures, ça peut être du blé, ça peut être du maïs, ça peut être du sorgho, ça peut être du colza, en fait là il y a toute une transformation de l'espace qui ne passe absolument pas par les remembrements. Et c'est aussi ça qui permet de comprendre que les choses continuent, parce que tu parlais de la ligne de partage entre La Rochelle-Genève, hein, si on tire un trait au milieu de la France. C'est vrai que si on regarde la carte qui a été faite par des collègues géographes, ça saute aux yeux le fait qu'il y a des cantons qui ont été remembrés trois fois, dans les Pays de la Loire, en Bretagne, dans le nord de la France aussi, et des cantons où il n'y a jamais eu de remembrement du tout. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il y a forcément beaucoup de bocages dans ces cantons-là. Notamment aujourd'hui, ça continue de disparaître pour ces raisons-là, profondément sociales et économiques, de retrait de l'élevage. Deux chiffres pour le comprendre. On a perdu 20% d'agriculteurs entre 2010 et 2020. Donc ça, c'est les chiffres moyens pour toutes les sortes d'agriculture, hein, que ce soit de la viticulture, du maraîchage, des grandes cultures, de l'élevage, l'arboriculture. Et on a perdu 38% d'éleveurs sur cette période-là. Donc entre 2010 et 2020, là, je ne suis pas du tout en train de parler des années 60-70. Enfin, là où il y avait 5 éleveurs en 2010, là où il y en avait 5, et ben en 2020, il n'y en a plus que 3, quoi. Et ça a des effets sur le travail et donc sur le paysage, parce qu'il y a moins d'exploitation, mais la surface agricole totale reste la même. Les exploitations sont plus grandes, et si elles sont plus grandes, ça veut dire que le linéaire de haies par exploitant à travailler est plus important, même si globalement le linéaire régresse, parce que entretenir ces haies-là, bon, c'est du temps, c'est du diesel, c'est des machines, et c'est du temps qu'ont de moins en moins les éleveurs qui de plus en plus deviennent des cultivateurs, au sens qu'ils faisaient déjà de la polyculture, mais ils vont plus insister sur cet aspect production de céréales, production de grandes cultures.
Moins de temps, parce que finalement, des exploitations de plus en plus grandes, mais de moins en moins de gens pour y travailler.
auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Avant-guerre, un Français sur trois,
un tiers de la population active était dans le monde agricole. Et aujourd'hui, on est à 2%, moins de 2%. Donc, c'est-à-dire qu'on était à une personne sur trois de la population active. Et là, aujourd'hui, on est à une sur 50.
Par exemple, la surface agricole exploitée en France aujourd'hui, c'est combien de pourcents du territoire ?
C'est plus de la moitié, c'est 52%. Donc ça fait à peu près 27 millions d'hectares.
C'est-à-dire que 2% de la population française active s'occupe
de 52% du territoire national. Et en fait, ça, c'est des ordres de grandeur tout à fait connus, qui sont dans des statistiques publiques.
C'est toujours bon à rappeler, hein.
Voilà, vérifié, vérifiable. Quand on juxtapose ces deux chiffres, on a de quoi comprendre la crise, entre guillemets, hein. Je mets 1000 guillemets autour de cette expression agricole, puisque c'est absolument pas une crise au sens conjoncturel, tout à fait soudaine, qui ferait irruption dans une normalité. C'est ça, là, une crise au sens premier. Non, non, on est dans un processus de fond qui a commencé au 19e siècle, mais qui s'est accéléré après les années 40 et qui aujourd'hui perdure d'autant plus cruellement, on peut le dire, que la population agricole est petite. Donc en fait, proportionnellement, là, quand on dit on perd 20% d'agriculteurs en 10 ans, entre 2010 et 2020, par rapport à la population générale qui reste, les 390 000 exploitations, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? La donnée principale du problème, c'est son caractère dynamique. Les exploitations diminuent et la seule catégorie d'exploitation qui augmente, ce sont les grandes cultures en termes de production. Et les grandes exploitations en termes de structure économique, donc c'est une catégorie créée par le ministère de l'Agriculture. Cette catégorie, elle désigne des exploitations qui font en moyenne 136 hectares et qui dégagent 250 000 euros de production brute en dehors des subventions qu'elles reçoivent. Et qui font de plus en plus appel aussi à du travail dit à façon. Donc quand on fait faire à façon, c'est par exemple demander à une entreprise de faire le semis, de faire la récolte, d'ensiler la production, etc. Donc ça veut dire qu'on fait des prestations de services. Ce qui fait qu'on a une agriculture, selon le terme qui est employé par des collègues, François Purseigle et Bertrand Hervieux, sociologues de l'agriculture, d'une agriculture sans agriculteur, au sens où si on a des auditeurs qui se disent « Ah ben j'ai du capital, j'investis dans l'agriculture », ils peuvent tout à fait percevoir des aides de la politique agricole commune, et puis finalement ne jamais mettre le pied dans leur parcelle ou dans un tracteur et faire du travail à façon par des entrepreneurs de travaux agricoles qui sont souvent des exploitants agricoles qui diversifient leurs activités et quand même voilà se dire agriculteur alors qu'on est extrêmement loin de l'agriculture familiale qu'on a encore beaucoup en tête quand on s'imagine la sociologie de l'agriculture française qui existe toujours en partie. Mais ce qui compte, c'est la dynamique. On voit que c'est ce qui recule. Et ce que montrent ces sociologues-là, ça s'observe aussi dans le paysage. En fait, ce qui se passe dans les structures géographiques des milieux qu'on arpente, c'est le mouvement même de ce qui se passe dans les structures profondes de la société française. De plus en plus de division du travail et la fin de l'agriculture familiale.
Quelques chiffres à la louche avant de poursuivre cette conversation avec Léo Magnien. Près de 53% du territoire métropolitain est occupé par des activités agricoles menées par seulement 2 à 3% de la population active. Les campagnes et zones rurales de France sont habitées par moins de 20% de la population. La montagne, c'est environ 30% du territoire français. Et les villes et zones urbaines couvre environ 22% du territoire et concentre près de 80% de la population française. Et le béton gagne chaque jour du terrain. Le ministère de l'écologie lui-même précise qu'en France, on artificialise l'équivalent de 5 terrains de foot par heure.
C'est tout à fait vérifié, vérifiable, l'artificialisation des sols est aussi une menace pour les haies. Donc là, on parle des haies, mais ça peut être les zones humides aussi, qui est un enjeu immense en termes de qualité des eaux, de résilience face à la sécheresse, de biodiversité de laquelle on a besoin, ne serait-ce que pour manger et avoir de la pollinisation. Les prairies aussi, hein, pour les sols, et souvent des zones humides sont des prairies. Donc l'artificialisation des sols, c'est un problème qui se pose principalement dans les milieux qu'on dit périurbains, mais qui nous concerne tous, parce que ces trames-là d'espaces tampons que sont les zones humides, que sont les haies, c'est à l'échelle d'écosystèmes entiers dont on dépend pour vivre que leurs effets se constatent.
La lutte contre la bétonisation du sol était l'un des axes du combat dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, contre cet aéroport inutile et son monde. C'est aussi le cas dans l'actuelle lutte contre les méga-bassines.
J'ai pas spécifiquement creusé ces objets-là parce que j'étais plus sur l'ordinaire, le quotidien, plutôt sur l'Auvergne, même si je suis allé faire aussi du terrain en Bretagne. T'as parlé de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de son bocage, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les haies sont des objets dont saisissent des personnes qui sont, et des groupes sociaux qui sont totalement aux antipodes d'un point de vue politique, ce qui est assez mystérieux. Alors, si on prend Notre-Dame-des-Landes, géographiquement, c'est un bocage qui est préservé par le sens premier de ZAD, hein, d'aménagement différé. Il a été mis sous cloche de façon presque plus efficace que des protections de biotope parce que on prévoyait d'y faire un aéroport. Disons que cette réalité physique du territoire, c'est ça aussi qui est saisi par les personnes qui vivent là-bas. Et c'est la même chose à Bure, dans la ZAD de Bure.
Un site où on veut enfouir des déchets nucléaires.
Dans l'est de la France, qui n'est pas du tout bocager. Mais une des premières choses que font les militants qui arrivent là-bas est de replanter des haies. Idem, t'as parlé des bassines, alors je vais pas du tout apporter une parole experte là-dessus, simplement relever que il y avait des débats, je sais que lors d'une des mobilisations sur place qui visait à lutter contre l'implantation des bassines, il y avait eu une plantation de haies, je crois que c'était la Confédération Paysanne. Dans le même temps, dans les engagements des syndicats d'agriculteurs et d'eau qui poussent pour la mise en place de bassines, eh bien dans les sortes de compensations pour avoir ce droit-là, il y a la plantation de haies. Donc en fait, on voit que c'est un objet qui est approprié politiquement par des bords totalement antagonistes. On peut voir aussi que le MEDEF et la FNSEA s'en sont saisis en disant « Vous, grandes entreprises, venez compenser vos émissions de gaz à effet de serre en plantant des haies avec une structure qui est affiliée à la FNSEA et qui s'appelle Epiterre. » Donc on voit à quel point on a un objet qui a l'air consensuel, mais on peut se douter que ce consensus n'est que de façade, étant donné que les personnes qui s'en saisissent, enfin les groupes politiques, sont totalement aux antipodes.
Et ces grandes entreprises qui font ce qu'on appelle du greenwashing, hein, complètement pipeau, hein. Je paye mon droit de polluer en plantant des arbres, en fait ça marche pas.
Non, alors ça c'est, voilà, si on prend vraiment l'aspect carbone, pour vraiment démonter ça d'une bonne fois pour toutes, ce qui cause le réchauffement climatique, c'est l'activité humaine. Dans cette activité humaine, c'est la combustion d'énergie fossile. Et cette combustion d'énergie fossile, elle amène du CO2 dans l'atmosphère de manière additionnelle, c'est-à-dire en plus du CO2 qui est déjà là. Pourquoi ? Parce qu'on va pomper dans des nappes souterraines le pétrole ou le gaz qu'on brûle. Donc, une entreprise, par exemple, qui utilise l'avion, j'avais vu des pubs là pour dire « Vous faites un voyage en avion, compensez votre voyage en plantant des arbres, donc ça peut être des haies. » C'est pas du tout une compensation, parce que les tonnes de CO2 que vous émettez en prenant l'avion, en brûlant du kérosène, elles sont dans l'atmosphère, elles y sont, c'est sûr. C'est fait. Et en plus, c'est additionnel, parce que ça vient de nappes souterraines. Par contre, compenser par de l'activité photosynthétique d'un arbre, ça, un, c'est totalement virtuel, parce que l'arbre peut tout à fait crever et ne pas se développer, donc il va rien séquestrer du tout dans le sol ou dans ses branches et ses racines. Et deux, en fait, c'est un tout autre cycle du carbone, parce que c'est un cycle beaucoup plus rapide, puisque l'arbre, s'il brûle, s'il meurt, il va se décomposer et le carbone repart dans l'atmosphère. Donc sa séquestration est totalement temporaire, même si on peut imaginer que l'arbre peut vivre plusieurs dizaines d'années. La tonne que vous avez émise en prenant l'avion, elle reste dans l'atmosphère.
Quoi. L'arbre, c'est pas un haricot magique, il lui faut au moins 30 ans pour devenir...
Exactement. Donc cette pensée solutionniste, qui serait de dire on a des solutions pour continuer à faire comme avant, tout en se disant que on fait ce qu'il faut pour l'environnement. Sur la haie, c'est prégnant, ça existe aussi pour la forêt, ça existe pour les sols agricoles, il y a des initiatives là-dessus. Mais en réalité, on sait d'un point de vue déjà biochimique que ça ne marche pas. Et ensuite, si on regarde la mise en œuvre de ces mesures-là, qu'on regarde par exemple le taux de reprise, donc c'est-à-dire combien d'arbres poussent sur ceux qui ont été plantés, en fait, si c'est fait dans une pure perspective de communication au moment où l'entreprise va dire « nous, ce qu'on fait, c'est génial », l'entreprise, mais ça peut être l'administration, hein, le ministère de l'Agriculture lui-même a mis en avant le fait qu'il achetait des crédits carbone agricoles pour compenser ses émissions, donc il reprend cet usage du terme qui n'a pas grand sens en réalité. Ça pose des questions dans le sens où il y a une communication sur le moment donné, et puis en fait, qu'est-ce qui advient vraiment dans la durée de ces initiatives-là? Est-ce que les arbres poussent? Est-ce que les sols qui doivent être couverts le sont effectivement? C'est une des grandes absences de la réflexion actuelle, et c'est ce qui a été montré aussi par une étude qui avait été relayée par le Guardian il y a quelques temps, qui montrait que tous ces projets-là, plutôt dans les suds globaux, consistaient à dire « on va planter de la forêt pour compenser nos émissions », étaient en fait pas mis en œuvre et étaient extrêmement loin de ce qui avait été annoncé. Donc on voit aussi les limites de cette idée selon laquelle il ne faut pas faire moins pour aller vers plus d'environnement ou pour simplement respecter les limites planétaires. Mais il faudrait faire plus. Ben, on peut faire un peu plus, on peut planter, et puis ça va suffire, on va pas changer le reste. Là, on voit vraiment que cette utilisation de la haie à ces fins-là s'inscrit dans tout un discours assez classique de « par de nouvelles actions, on va permettre de ne pas changer nos pratiques actuelles. »
Tu manges du bio?
C'est très bien.
Au McDo?
La touche fond.
Du pique-nique?
C'est très bien.
T'appelles les flics?
Pas cool.
Tu dis je t'aime?
C'est très bien.
Tu vas de peine?
C'est pas bien.
Tu montes des fesses?
C'est marrant.
À la messe?
C'est gênant.
Plante un arbre, la chanson du dimanche, avant de poursuivre avec Léo Magnien.
Cette haie nous en dit aussi sur les époques traversées, sur la nôtre. Je passais un peu pour un martien, alors évidemment j'y connaissais rien. Je disais oui, si vous croyez que les anciens nous ont laissé des haies, des fossés, un paysage de bocage pour faire joli et nous faire plaisir à nous les urbains, parce que c'est sympa quand on va à la campagne. Non, le monde paysan, tu le rappelais, hein, y a rien de gratuit, enfin, chaque acte est optimisé et a une fonction.
Mais je vais quand même nuancer ça. Forcément, j'insiste sur des choses, puis après, il y a 8 chapitres, et donc chaque chapitre prend un peu, par exemple, il y a un chapitre économie, donc là, j'y vais fort dans l'aspect fonction, comme tu l'as dit, de la haie. Mais d'un autre côté, le chapitre suivant, l'idée, c'est de faire aussi un petit peu place du milieu.
On va parler de poésie aussi.
Sociologue, voilà, c'est en fait une place centrale au goût. Parce que en sociologie, le goût est une manière extrêmement efficace et révélatrice des trajectoires sociales, des structures des différents groupes sociaux. Et typiquement, le fait que l'arbre devienne un objet de contemplation pour notamment des peintres bourgeois, ça a été bien montré par Bourdieu, est le résultat de la fin de fonction économique de la haie. C'est parce qu'elle ne sert plus à grand-chose qu'elle est folklorisée, esthétisée, déréalisée en quelque sorte. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un extrême inverse qui consisterait à dire que tout est optimisé dans le monde agricole, que tout est rationnel, que tout est économique. Loin de là, il y a d'ailleurs des études formidables qui montrent que la popularisation des tracteurs, même si elle répond évidemment à des questions de simplification du travail, elle répond aussi à des préoccupations esthétiques et des préoccupations de distinction sociale. D'avoir le tracteur le plus beau, le plus récent, de l'avoir avant les autres, etc. Comme on peut l'observer avec la voiture dans la population générale, les agriculteurs n'étant pas en dehors de la société. Et sur le rapport à l'arbre, tu mets en avant la distinction urbain-rural qui est toujours opérante aujourd'hui. Et d'un autre côté, c'est aussi très important d'aller lire les ethnologues, les collègues sociologues, des travaux qui montrent qu'en fait, il y a aussi une appropriation esthétique de la haie par bon nombre d'agriculteurs, alors pour des raisons différentes, dans des territoires différents, mais qui peuvent utiliser des haies pour leur plaisir de l'œil. Parce que ça participe d'un cadre de vie qui est indissociable de leur identité professionnelle. Donc il y a Pauline Frileux, par exemple, qui a travaillé sur les hêtraies en Normandie, donc les plantations de hêtres alignées, avec des agriculteurs qui lui racontent que ça leur coûte, que économiquement c'est pas un calcul rentable, mais qu'ils se voient pas du tout supprimer ces êtres-là, voire qu'ils en replantent, parce que ça fait partie de leur identité sociale, professionnelle, territorialisée. Idem dans la vallée du Rhône, par exemple, où Sandrine Petit et Perrine van den Broek ont montré qu'il y avait des agriculteurs qui avaient un goût de la haie, parce que ça permet aussi d'intégrer des bâtiments dans le paysage, ça permet aussi de répondre à une forme de pression, de regard extérieur, en disant « Oh, il nous a fait un gros bâtiment dégueulasse, le voisin. » Hop, là, on met une haie pour intégrer le bâtiment dans le paysage.
Et le masquer.
Et se faisant le masquer. Et ces dimensions esthétiques sont souvent indissociables de raisons agronomiques, qui vont donc se connaître dans la production, mais qui sont pas forcément mathématisés, chiffrés, quantifiés quant à leurs résultats comptables. Par exemple, une haie, c'est un climatiseur pour les vaches, parce qu'elles peuvent se mettre à l'ombre, elles peuvent s'y reposer. Faites l'expérience, hein, un jour de canicule, mettez-vous dans un champ sans arbre et puis attendez de voir ce qui se passe. Vous allez vous dessécher. Pour la vache, c'est pareil. C'est aussi le cas pour tout simplement le but de la production agricole, c'est-à-dire de produire soit de la viande, soit du lait, là, si on parle des vaches. Et qu'en fait, une vache qui souffre et qui lutte contre la chaleur, elle produit rien du tout. Comme une plante, hein, c'est pareil, qui va évapotranspirer autant qu'elle peut et qui va lutter juste pour survivre, ça produit rien du tout, ça. C'est ce type de situation. Donc le fait d'avoir un peu plus d'ombre, un peu plus de fraîcheur, un peu plus de frein au vent, ça permet de créer ce qu'on appelle des microclimats qui sont un peu plus régulés, tempérés, et donc de résister, de faire preuve de résilience par rapport au changement climatique. Donc il y a des arguments esthétiques, mais il y a aussi des arguments agronomiques qui sont de plus en plus mis en avant. Mais la différence par rapport aux fonctions dont on a parlé au début de notre discussion, c'est que c'est indirect, ça se voit pas tout de suite. Alors la vache qui va à l'ombre, ça se voit tout de suite, donc ça parle plus aux éleveurs. Et c'est pour ça que quand l'élevage recule, le bocage recule. Par contre, c'est toujours un peu moins direct qu'au 19e siècle, où on allait directement chercher de quoi manger, de quoi faire sa charpente, de quoi faire des meubles, directement dans la haie.
Quand on pouvait parler des, il y a encore quelques temps, bon, les gens vous regardaient avec des yeux globuleux en disant de quoi il me parle celui-là. Assez surpris finalement de voir que la haie est devenue un truc assez tendance, tant brandi par des écolos zadistes que par des chasseurs, ou des grandes multinationales qui font du greenwashing, ou des politiques qui font semblant d'être attentifs au monde agricole. La haie est devenue, depuis peu, là, presque un truc à la mode.
Oui, c'est vrai, il y a un engouement pour la haie, qui est, comme tu l'as dit, au niveau politique, et puis aussi peut-être au niveau éditorial aussi. Il y a un livre qui est sorti au début de l'année d'une philosophe, Sonia Firtchak, qui s'appelle Éloge de la haie. Ça manifeste en fait cette transformation du regard sur un objet qui était plutôt dans l'indifférence, hein. Comme on disait, on parlait de fossilisation. Donc cet aspect de renaissance de la haie saute aux yeux, surtout pour moi, parce que comme tu disais, voilà, il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais plutôt des regards éberlués quand je disais que c'était sociologue et que je travaillais sur les haies, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on me dit « Ah oui, les haies, bien sûr !» Il y avait des pubs à la radio, là, quand j'écrivais le livre, il y avait des pubs avec Elise Moon qui invitait les gens à planter des haies, avec une petite fille qui dit « Oui, ce matin, je vais planter des haies avec l'agriculteur qui est à côté de l'école. » Enfin,
du politique aime bien ça, parce que ça se voit tout de suite. Regardez les petits enfants, ils ont planté des haies, c'est mignon, ça fait une belle photo dans le journal du coin.
Ouais, je le dis sans ironie, en fait, ça participe de construire ce problème-là en tant que problème public, c'est-à-dire quelle est l'évolution du paysage dans sa diversité, quelles questions ça pose. C'est formidable que ça existe et que ce soit audible. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on continue de perdre des haies, on peut juste rappeler les chiffres là. Donc d'après un rapport du ministère de l'Agriculture récent, on perd environ 20 000 km de haies par an. Ça a quasiment doublé par rapport à il y a une quinzaine d'années, on était à 11 500, selon la même méthodologie de comptage. Donc il va y avoir d'autres chiffres qui vont sortir à la fin de l'année, il va falloir suivre ça de près. Mais on constate qu'en fait, on est aussi dans un regain d'intérêt pour la haie, précisément parce qu'elles disparaissent. C'est un petit peu la phrase du poète qui dit « J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». On attribue un prix, pas forcément économique, hein, un prix, une valeur à cet objet-là aussi, parce qu'on voit qu'il régresse. Donc c'est ce paradoxe-là. Ça a pratiquement doublé la disparition du bocage là dans la dernière quinzaine d'années, alors qu'on a l'impression que non, que enfin bon, ça y est, je sais pas, l'environnement est passé dans les mœurs, pour reprendre le sous-titre de mon bouquin L'écologisation des mœurs, alors qu'en fait non, on voit que c'est pas ce qui se passe en fait, qu'il y a une profusion de discours normatifs, des discours politiques, des discours militants qui ont toute leur place, qui ont leur modalité propre pour prendre en compte l'environnement de plus en plus intensément. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des dynamiques économiques, des dynamiques paysagères, des dynamiques démographiques qui font que ces discours, pas pour tout, mais pour beaucoup et dans les grandes lignes de force, restent lettre morte.
Toujours avec Léo Manien,
on parle des mondes ruraux et agricoles,
comme le Loir-et-Cher par exemple.
Saurez-vous reconnaître l'autre gars qui chante avec Michel Delpech ?
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir, je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils ne me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je pas toujours ce que je veux, et qu'il faut que je trouve encore un poste d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent tu ne viens plus même pour pêcher un poisson. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Loir-et-Cher de Michel Delpech, avec Francis Cabrel, pour évoquer les rapports parfois difficiles que nous pouvons avoir avec les mondes ruraux qu'en ville on connaît très mal, avec parfois mépris ou condescendance. Or, on sait que les mondes agricoles en pleine mutation vont souvent très mal, et ce depuis longtemps. En témoigne un très fort taux de suicide chez les exploitants agricoles. Et c'est une chose beaucoup dite par des gens de bassines non merci ou des soulèvements de la terre. Nombre d'exploitants agricoles ne sont pas des ennemis, mais des victimes, des rouages, des prisonniers du complexe agro-industriel, devenus des prestataires au service de multinationales, spécialisés, dépendants, pris en tenaille en amont par des banquiers, des marchands de semences, de machines, de produits chimiques souvent cancérigènes, et en aval, par la grande distribution. Le tout dans un délire capitaliste européen et mondialisé. Et la vie sociale des haies l'évoque aussi, Léo.
Ce qui amène, je pense, une analyse comme ça, où on prend un petit objet, la haie, mais on s'intéresse aux structures sociales, parce que c'est ça que j'essaye de faire. Je me mets sous le saint patronage de Norbert Elias, qui est un sociologue qui reliait en fait les petites choses ordinaires de la vie quotidienne, la manière de se moucher, par exemple, à la structuration de la société, et notamment l'interdépendance qui est créée par la spécialisation des tâches et la division du travail. Et on peut retrouver exactement la même dynamique dans la haie, ce qui pose précisément la question de quel degré de division du travail. Parce que c'est toutes ces dépendances que tu as citées par rapport à des banques, par rapport à des grosses entreprises agro-industrielles, Alors, ce que ça dit, c'est que les manières de produire, elles reposent à la fois sur des mécanismes qui sont des mécanismes techniques, donc les intrants, la synthétisation de l'azote de l'air, qui demande des énergies fossiles pour être effectuées, l'eau, l'acheminement de l'eau, on en parlait, et puis de l'autre côté, sur une division du travail qui est permise par ces techniques-là. Et évidemment, l'un permet l'autre, mais la grande question, c'est comment est-ce que... Alors que la préoccupation pour l'environnement est de plus en plus importante, et c'est tant mieux parce que c'est juste scientifiquement factuel et avéré, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, donc ça concerne tout le monde, il n'y a aucun débat là-dessus, et heureusement que c'est de plus en plus, bon, même si on a encore des zones politiques où c'est pas pris comme le point de départ de la réflexion, évidemment, mais c'est de plus en plus diffusé dans, disons, dans les opinions collectives, et en fait, pour répondre à cette préoccupation, il faut se poser la question de qui s'occupe de l'environnement. Et là, on arrive à un tel degré de division du travail qui repose aussi donc sur le développement des techniques qu'on peut se poser légitimement la question de est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est viable, durable, hein, au sens social comme au sens environnemental, qu'on ait moins de 2% de la population active qui a pour mission et de produire de la nourriture et de dégager de la plus-value économique qui s'inscrit dans une lutte géopolitique internationale pour l'hégémonie ou pour la lutte contre l'hégémonie de certains pays, donc via l'exportation, et d'entretenir le paysage au sens non seulement de l'entretenir pour continuer à exister, mais aussi pour le restaurer, pour regagner de la biodiversité, pour pouvoir faire face au réchauffement climatique, pour pouvoir faire face aux sécheresses à répétition, tout ça par une si petite partie de la population. Et donc ça pose la question en fait de nos modes de vie, de nos formations, de la manière dont on s'oriente vers les métiers qu'on pratique, de notre rapport à l'espace, de notre rapport à l'alimentation aussi. Ces grands problèmes qui sont des problèmes politiques en fait, parce que la division de la société en groupes sociaux tels qu'elle existe, en tâches différentes, en s'appuyant sur tout le métabolisme énergétique et matériel dont on a parlé, c'est rien d'autre que le résultat d'une histoire qui aurait pu être autrement, qui peut être aussi changée par des choix politiques. La modernisation de l'agriculture, c'est une politique qui a extrêmement bien marché par rapport à ses objectifs, ce qui n'empêche pas tous les dommages dont on est en train de parler, mais il y a une vraie puissance politique qui est possible, y compris par les mouvements sociaux, parce que cette modernisation agricole était aussi portée par des mouvements sociaux, alors qui sont oubliés aujourd'hui, mais par exemple, dans les mondes ruraux, durant la modernisation, c'était la JAC ou la JAC, les Jeunesses Agricoles Catholiques, qui ont été un mouvement d'éducation populaire extrêmement important dans les mondes paysans, avec une volonté d'émancipation. Et pour l'environnement, tu as parlé des soulèvements de la terre, tu as parlé d'autres collectifs. Et il y a cette question-là d'articulation entre ces grandes orientations et comment ça peut aussi passer par des mouvements sociaux et par des politiques publiques, puisque moi je suis plutôt sur l'étude des politiques publiques. Mais disons que c'est ces questions-là couvrent le petit objet haie.
La vie sociale des haies, en quelques instants, de quoi n'a-t-on pas parlé au cours de cet entretien? Des thèmes qui sont abordés dans le livre et qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui.
Je peux faire le sommaire pour celles et ceux qui auront envie de lire le livre. On n'a pas parlé d'études de cas précises qui reviennent dans le livre. Donc, par exemple, je prends un remembrement que je suis sur plusieurs années et qui est bloqué par la règle de protection des haies. On suit un peu les agriculteurs, les géomètres, le maire qui essaye de se dépêtrer de tout ça, une association environnementale. On n'a pas parlé de ce que j'appelle la diplomatie agroécologique, parce qu'on a listé beaucoup de problèmes, mais en réalité, il y a des gens qui travaillent tous les jours et qui essayent d'œuvrer à ce que, justement, on ne reste pas dans des caricatures un peu stériles entre d'un côté les bons, les méchants, et qu'en fait, il est possible, via notamment les aspects esthétiques, via les aspects agronomiques, via des aspects aussi économiques, de redonner de la valeur sociale aux haies. Et donc j'essaie d'analyser un peu comment travaillent ces diplomates du bocage que sont les techniciens bocage ou conseillers agroforestiers qui travaillent en chambre d'agriculture, en fédération de chasseurs, dans des associations environnementales et qui sont fédérés par la fac agroforesterie dont je parlais tout à l'heure avec qui j'ai travaillé. On n'a pas parlé d'un chantier totalement incroyable de numérisation des haies, parce que pour les protéger, il a fallu les cartographier. Je vous passe les détails, mais ça fait l'objet de tout un chapitre. Alors même qu'on nous parle d'IA toute la journée, là, en réalité, ça a été fait à la main par des employés sous-payés en Inde, en Roumanie, en Tunisie. Donc je raconte cette histoire-là, qui est totalement rocambolesque et qui amène à se poser des questions sur notre rapport au numérique, disons à la facilité supposée du numérique.
C'est-à-dire qu'il y a des Indiens qui, avec Google Maps ou je sais pas quoi, calculent le nombre de haies qu'il y a en France.
Et clic après clic, quoi. Ça a été fait à la main et ça a été sous-traité, parce que ça coûte moins cher là-bas. On n'a pas parlé de l'histoire des sciences du bocage, on en a parlé vite fait, mais j'essaye de lier ce qui existe en littérature et ce qui existe en biologie sur les haies, en montrant que constituer un objet, ça passe par des scientifiques, ça passe par des colloques, ça passe par des études, mais ça passe aussi par des romans, de la littérature pour enfants, des manuels de plantation, qui sont des formes d'expression littéraire qui circulent énormément, en fait, sur les tables de salon, dans les salles de cours, et ça joue aussi de ce processus de requalification des haies. Et on n'a pas parlé de Gabriel Attal, qui a prononcé un discours sur la police de l'environnement et les haies et la fiscalité agricole en début d'année, sur lequel je reviens. Puis on n'a pas parlé, de la manière dont j'essaye de mettre à distance et de réfléchir au rôle que peut avoir la sociologie ou les sciences sociales dans ces questions-là, qui clôt le bouquin. Il y a encore quelques petites choses dont on pourrait parler quelques heures ensemble, mais on approche de la fin, donc il va falloir quand même s'arrêter à un moment donné.
Le livre s'intitule « La vie sociale des haies ».
Et le sous-titre, c'est « Enquête sur l'écologisation des mœurs », c'est sorti à la découverte fin août 2024.
Merci beaucoup Léo.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. À bientôt.
Le livre s'intitule « La vie sociale des haies » aux éditions La Découverte. Émission à retrouver sur notre site polémiques-et-la-voix-off.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Et on se quitte en musique sur un retour vers le Loir-et-Cher avec les Michel Delpech, Mode.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas, non, ne font pas de manière. Ils passent l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre, retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir, je passe le dimanche dans le Loir-et-Cher. M'arrête dans le Loir-et-Cher. Ils ne me laissent plus partir, non, plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que ha, je ne fais pas toujours, non, pas toujours ce que je veux. Et qu'il faut encore que je trouve un poste d'essence, que je n'ai pas le temps de finir ma bière. Que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher.
Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu viens plus même pour pêcher un poisson. Ah, tu ne penses plus à nous.
Ça gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça gêne de dîner avec nous.